France Inter. Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, la mort de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale du gouvernement Jospin. Il avait 87 ans. L'homme qui voulait dégraisser le mammouth avait aussi des prises de position controversées sur le changement climatique. Prudence sur les routes ce soir. 30 départements sont en vigilance orange. Neige et verglas dans le nord et l'est de la France. Aux États-Unis, c'est le début aujourd'hui de 6 jours de funérailles nationales de Jimmy Carter. Jusqu'à jeudi, les Américains sont invités à s'incliner devant le convoi funéraire qui va sillonner le pays. Nous irons en Belgique, qui veut en finir avec les publicités d'alcool ciblées vers les jeunes. Et nous verrons que le tourisme s'est très bien porté à Paris pour les fêtes de fin d'année. Enfin, le tennis, nous évoquerons le phénomène du moment, l'américain Reilly Opelka, 293e joueur mondial, en finale du tournoi de Brisbane après avoir battu notamment un certain Novak Djokovic. Et puis le temps de demain, dimanche, c'est Linda Costa. On a parlé des pluies verglaçantes ce soir. Eh bien demain, ce sera beaucoup plus doux.
Oui, ça grimpera déjà un petit peu le matin, mais c'est surtout l'après-midi qu'on va le sentir gagnant par endroits plus 10 degrés par rapport à aujourd'hui.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Il avait été un ancien ministre de l'Éducation nationale qui voulait dégraisser le mammouth. Claude Allègre est mort aujourd'hui à Paris. Il avait 87 ans, longtemps membre du Parti socialiste. Claude Allègre s'était rallié à Nicolas Sarkozy en 2007. Il était aussi connu pour des prises de position controversées sur le changement climatique à tel point qu'il avait fini par déconcerter une partie de ses proches, Sophie Bécherel.
Un grand scientifique ou un faussaire, un socialiste ou un déçu de la gauche passé à droite, une figure très soutenue ou un sphinx isolé, Claude Allègre ce fut le feu et la glace, à l'image de sa discipline, la géologie, où il excellait, couronné par de grands prix comme la médaille d'or du CNRS et le prix Crawford. C'est en 97 que ce scientifique internationalement reconnu, qui a dirigé pendant 20 ans l'Institut de physique du globe, émerge aux yeux du grand public. Conseiller de Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation, il se voit confier ce portefeuille quand son ami devient Premier ministre. La recherche et la technologie y sont associées. D'emblée, il s'attaque à une réforme des études supérieures afin d'harmoniser les diplômes français avec ceux des autres pays européens. Le cycle LMD adopté en 99 par la France, c'est lui. La loi sur l'innovation qui permet aux chercheurs de créer des start-up et de déposer des brevets, c'est encore lui. Mais l'audace fait place à la brutalité quand il compare l'éducation nationale à un mammouth qu'il faut dégraisser. Il est contraint de démissionner. Après avoir critiqué Ségolène Royal, alors candidate à la présidentielle, et soutenu Dominique Strauss-Kahn, il rend sa carte du Parti socialiste pour se rapprocher de Nicolas Sarkozy, une période où il clame de façon provocante que l'homme n'est pas à l'origine du réchauffement climatique. Depuis une crise cardiaque en 2013 et les conclusions récurrentes du GIEC, il était devenu silencieux.
Sophie Bécherel, la prudence sur les routes ce soir. 30 départements sont en vigilance orange, neige et verglas dans le nord et l'est de la France. En Ile-de-France, la vitesse maximale est abaissée de 20 km/h. Et retenez qu'au volant, l'important est d'anticiper. C'est ce que rappelle Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement au sein de l'association 40 millions d'automobilistes.
Il y a des aides à la conduite, mais bon, les aides à la conduite, vous savez, il n'y a pas de miracle. Ce qui est important, véritablement, pour l'automobiliste qui est confronté à une période difficile sur la route, neige ou glace, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, par rapport à d'habitude, c'est garder des distances plus importantes que d'habitude. Parce qu'effectivement, malheureusement, s'il y a un dérapage, si on est juste à côté de la voiture d'en face, évidemment, il y a beaucoup plus de risques. Donc, deux choses. Un, l'anticipation, et aussi avoir une éco-conduite, c'est-à-dire avoir un freinage et une accélération modérée. Alors déjà, ça permet de moins consommer d'une façon générale, mais ça permet effectivement les mauvaises surprises dans ces mauvaises conditions.
Et donc prudence sur les routes ce soir. Nous partons dans les Vosges où les services d'urgence de l'hôpital de Remiremont sont perturbés tout ce week-end. L'accueil des patients est même suspendu, faute de moyens humains aux urgences. Il faut alors envisager de faire une demi-heure de route pour se rendre jusqu'à Épinal. Et à l'heure où les épidémies sont de saison, eh bien le cas de Remiremont illustre les autres cas de déserts médicaux en France. Clément L'Huillier.
Les urgences de l'hôpital de Remiremont ont fermé leurs portes dès hier après-midi à cause d'un manque d'effectifs et elles ne rouvriront pas avant demain matin, 8h30. Seules les urgences obstétricales continuent à être assurées comme habituellement. Les urgences sont donc redirigées vers Épinal, mais à l'hôpital Émile Durkheim également, la situation des effectifs est fragile. Alors pour éviter l'engorgement, les services de régulation du SAMU 88 sont renforcés et la direction du centre hospitalier demande aux patients de ne pas se rendre directement à l'hôpital, mais de composer le 15 ou de contacter leur médecin traitant. Les urgences pédiatriques continuent de fonctionner normalement. L'épidémie de bronchiolite reste à un niveau très élevé dans la région, tout comme l'épidémie de grippe. La direction rappelle que les services d'urgence sont d'abord destinés à prendre en charge les urgences vitales.
La veuve de Cédric Chouviat ne se satisfait pas de la qualification d'homicide involontaire pour les trois policiers qui devront comparaître, tous les trois impliqués dans la mort de Cédric Chouviat, ce livreur interpellé dans des conditions tendues. Il avait répété « j'étouffe » à plusieurs reprises alors qu'il était plaqué au sol par les fonctionnaires de police. Alors vous avez peut-être entendu dans le journal de 13h, la veuve de Cédric Chouviat dénonçait le comportement des policiers. Eh bien voici ce soir une autre version, celle de maître Franck Linéard. Il défend l'un des policiers et il ne comprend pas pourquoi son client est renvoyé devant un tribunal.
J'étais un peu surpris parce que on impute à ce policier une faute d'imprudence alors qu'il était en train de tenter de menotter une personne qui se rebellait. Il avait attrapé un bras, il essayait de tirer sur ce bras pour passer une menotte, ce qui est un geste complètement normal de la part d'un policier qui interpelle un individu qui ne veut pas se laisser interpeller. Et il se retrouve devant un tribunal pour cela. On lui impute une faute d'imprudence parce qu'il aurait dû, au moment où il était en train de lutter contre Cédric Chouviat pour passer un menottage, lui demander comment il allait. Mais ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable et donc je ne comprends pas que ce policier soit renvoyé devant un tribunal. On lui met un costume qui n'est pas le sien, évidemment, qui est beaucoup trop grand pour lui. On lui dit qu'il aurait une responsabilité dans le décès, une responsabilité involontaire, dans le décès de Cédric Chouviat. Mais évidemment, si au moment où il était en train de passer le menottage, il s'était rendu compte qu'il y avait le moindre souci de santé ou le moindre risque pour l'individu qu'il était en train d'interpeller, il aurait immédiatement arrêté.
Le tourisme, c'est très bien porté à Paris pour les fêtes de fin d'année, si l'on en croit les chiffres de l'Observatoire du tourisme parisien. La capitale a attiré en moyenne près de 30% de touristes supplémentaires par rapport à l'année dernière, même période. Des touristes venus du monde entier sous l'effet conjugué des Jeux Olympiques et de Notre-Dame de Paris. Un succès du tourisme parisien qui ne semble pas prêt de s'arrêter, William Delesseux.
C'est un beau succès. On se félicite ainsi à la mairie de Paris. Plus de touristes dans les rues de la capitale. Cela s'est traduit dans les taux de remplissage des hôtels, souvent voisins des 80%. Le nombre de réservations pour des séjours de deux nuits a ainsi augmenté de 21% par rapport à l'année dernière et de 34% pour des séjours de 6 à 8 nuits chez les hôteliers. Les voyageurs ont ainsi envie de rester plus longtemps à Paris. Ces fêtes de fin d'année signent aussi le vrai retour de la clientèle asiatique, très attendu depuis la fin du Covid. Les arrivées sur un an sont en hausse de 125%, suivies par les voyageurs venus des États-Unis, plus 25% sur un an. Ces performances post-Jeux Olympiques et réouverture de Notre-Dame vont se poursuivre tout au long de l'hiver. L'Observatoire du tourisme parisien s'attend à des arrivées en hausse de 16%, toutes destinations confondues, en ce début d'année 2025.
Marine Le Pen atterrira demain à Mayotte en début d'après-midi. Auparavant, elle sera passée par La Réunion. Trois semaines après le passage du cyclone Chido, un tiers des Mahorais sont encore privés d'électricité. C'est un convoi funéraire qui va sillonner les États-Unis pendant 6 jours. Les obsèques de Jimmy Carter débutent aujourd'hui. L'ancien président est mort le 29 décembre. Il avait 100 ans. Et jusqu'à jeudi, donc, les Américains sont invités à se recueillir devant la dépouille de l'ancien président. Première étape aujourd'hui, donc, en Géorgie, dans cette petite ville de Plains, là où est né Jimmy Carter. Aux États-Unis, Loïc Loury.
Devant la ferme familiale, dans la Géorgie rurale où Jimmy Carter a passé son enfance, la cloche ce matin a sonné 39 fois, un clin d'œil au 39e président américain. Jusqu'au 9 janvier, l'Amérique rendra ainsi hommage à son ancien chef d'État, selon un emploi du temps millimétré. Parmi les étapes de prévu, un passage par le Carter Center d'Atlanta, cette fondation avec laquelle il a œuvré pendant des décennies pour la paix dans le monde. Sa dépouille sera ensuite exposée exposée entre mardi et jeudi sous le dôme du Capitole à Washington. Les funérailles de ce fervent baptiste auront lieu toujours dans la capitale fédérale avec un éloge funèbre de Joe Biden et en présence de tous les anciens présidents encore en vie. Mais c'est à Plains, 600 habitants, que Jimmy Carter sera enfin inhumé, là où il aura vécu plus de 80 de ses 100 années d'existence. New York, Loïc Loury, France Inter.
Mais que s'est-il passé au sein de la brigade de soldats ukrainiens formés en France, la brigade baptisée Anne de Kiev? Emmanuel Macron voulait en faire un modèle de coopération, sauf qu'après 8 semaines de formation, alors que tous les soldats ukrainiens auraient dû retourner sur le front, et bien 1700 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir déserté. Kiev a même ouvert une enquête, non seulement sur des cas de désertion, mais aussi sur de possibles abus de pouvoir au sein de cette brigade, Boris Loumagne.
Paris et Kiev misaient gros sur cette nouvelle brigade, mais les résultats sont loin d'être à la hauteur des ambitions. D'après un journaliste renommé en Ukraine, près de 1700 soldats ont déserté cette brigade à leur retour au pays. Une cinquantaine d'hommes auraient même fui l'armée pendant leur formation en France. Alors du côté du ministère français des armées, pas de confirmation ni de démenti à ce stade, nous dit-on, et de la prudence sur les chiffres avancés. En Ukraine, les autorités ont ouvert une enquête parce que sur place, l'affaire fait grand bruit. Une députée évoquant notamment une brigade zombie formée à des fins de publicité. En fait, d'après le journaliste qui a révélé l'affaire, la brigade a été démantelée à son arrivée dans le pays. Ces hommes dispersés pour boucher les trous dans d'autres brigades affaiblies par des mois de combat. Et puis des jeunes recrues, à peine sortis de leur formation, ont été envoyés sur certains des points les plus chauds du front. De nombreux dysfonctionnements donc, mais pour autant, la collaboration franco-ukrainienne va se poursuivre puisqu'une deuxième brigade doit être bientôt formée en France.
La jeunesse, cible privilégiée des distributeurs d'alcool, car malgré la loi qui en interdit la promotion, 8 jeunes sur 10 ont accès sur leur smartphone à des messages qui valorisent l'alcool, soit par des publicités ciblées, soit par l'entremise d'influenceurs. Eh bien, la France pourrait peut-être s'inspirer de la Belgique. La Belgique qui vient d'instaurer une série de mesures pour protéger sa jeunesse, Elsa Lou Soarn.
Cette publicité pour de la bière installée près d'un abribus vit ses derniers moments. Située à moins de 150 mètres d'une école, elle n'a plus le droit d'être affichée là depuis le 1er janvier, une mesure saluée par les familles.
C'est très bien, je crois que tout ce qu'on peut faire, ça, il faut le faire, quoi. On dit toujours que ce sont l'accumulation de petites choses qui, à un moment donné, donnent des résultats.
Si effectivement on peut interdire que des gens montrent un exemple de boire aux alentours d'une école, bah, tant mieux.
Parmi les autres mesures phares, l'interdiction de promouvoir l'alcool sur TikTok et Snapchat, l'interdiction aussi de faire figurer des personnalités dans les publicités. Des mesures très symboliques mais insuffisantes pour Martin de Duve, expert en santé publique spécialisé en addictologie.
C'est un bon début, mais il faudrait aller beaucoup plus largement vers une interdiction générale de la publicité pour l'alcool. C'est le seul psychotrope pour lequel on peut encore faire de la publicité, ce n'est pas normal. L'alcool, c'est quand même la deuxième cause de mortalité évitable juste derrière le tabac. Il est temps aussi que l'État prenne ses responsabilités.
Dans un pays où l'on peut acheter vin et bière dès 16 ans, où environ un Belge sur 10 déclare une consommation excessive, les experts de santé attendent plus.
L'État est complice de la surconsommation des Belges en n'adoptant pas une série de mesures pour protéger notamment les mineurs.
Un système d'intelligence artificielle doit être mis en place pour contrôler le respect de la mesure sur les réseaux sociaux.
En tennis, voilà un retour en grâce. Ça se passe au tournoi de Brisbane en Australie. L'Américain Lailey Opelka, 293e joueur mondial, s'est qualifié pour la finale après avoir battu notamment Novak Djokovic. Et si je vous parle d'un retour en grâce, c'est parce que Lailey Opelka s'était cru perdu pour le tennis il y a 2 ans après une série de mauvaises blessures, Julien Froment.
Le 4 août 2022, élimination du tournoi de Washington pour Lailey Opelka. Il ne le sait pas encore, mais ce sera son dernier match sur le circuit professionnel avant 2 ans. 2 années de calvaire émaillées de blessures pour l'Américain de 25 ans, alors 17e à l'ATP. Le meilleur classement de sa carrière. Il se fait à l'époque opérer de la hanche, une tumeur bénigne et décelée. L'opération se déroule bien. Il croit pouvoir revenir sur le circuit, mais c'est un bref répit car 2023 est synonyme d'arrêt total pour le tennisman. Opération du poignet, mal soigné, surinfection et un plâtre qui immobilise tout son bras pendant 5 mois. Reyi Opelka songe alors à prendre sa retraite, mais finalement, il fait preuve d'une incroyable résilience et se bat pour revenir sur les cours. Il rejoue pour la première fois l'été dernier et en ce début de saison 2025, la récompense, une victoire de prestige contre le Serbe Novak Djokovic et cette qualification pour la finale du tournoi de Brisbane. Peu importe le résultat, Reyi Opelka a gagné son match contre les blessures et les coups du sort.
Et demain, en finale du tournoi de Brisbane, cet Américain Reyi Opelka sera opposé au Tchèque Jiří Leška. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
À demain, fini le verglas, hein. Ce sera la remontada des températures.
Oui, c'est vrai, avec un net redoux, hein. Pour vous donner une idée, on a eu 2 degrés cet après-midi à Paris, et bien demain après-midi, il en fera 12. On va gagner sur la moitié nord et le centre-est de 6 à 10 degrés par rapport à aujourd'hui. Ce sera doux aussi sur la moitié sud, mais comme aujourd'hui finalement, où la moyenne allait de 10 à 17 degrés.
Oui, toujours ces averses présentes sur la moitié nord.
Oui, au nord de la Loire, elles seront accompagnées de bonnes rafales de vent, 60 km à l'heure dans les terres, jusqu'à 80 sur les côtes de la Manche. C'est ce vent de sud qui va nous apporter cette douceur. Notez que ces averses, elles vont se renforcer dans la soirée sur la pointe bretonne et dans la nuit suivante, apportant de bons cumuls. Des averses, on en aura également plus au sud. On parle de faibles averses du Languedoc-Roussillon vers la vallée du Rhône et sur la côte d'Azur. Pour le reste de la moitié sud, et en remontant vers le centre et la Bourgogne-Franche-Comté, on aura des nuages, mais aussi de larges éclaircies dans l'après-midi, avec là aussi un vent qui va rester soutenu.
Céline Dacosta.